L'info sur DFM.
Nous sommes avec le parrain du printemps des poètes de cette année, Ludovic Harry. Bonjour.
Bonjour.
Ludovic Harry, vous avez été invité par Jean-Pierre Puyal. Il est de la famille ?
Non, Jean-Pierre n'est pas de la famille, mais en fait, la mère de Valence-sur-Vaïse est quelqu'un que je connais parce que je suis ami avec son fils. Voilà. Voilà.
Donc, alors ça c'est une chose, mais c'est surtout parce que vous êtes écrivain, vous êtes documentaliste dans l'éducation nationale et vous nous avez fait une soirée de lecture avec, vous pourriez être comédien.
Alors en fait, pour moi, ce qui est très important, c'est d'incarner le livre. Donc le fait d'être comédien, le comédien généralement, il est au service d'un double, d'un personnage. Moi, je suis au service d'un texte. Mais vous avez raison, je suis au bord de la théâtralité au sens où j'essaie vraiment de donner de la chair et du rythme à ce que j'écris. Et les comédiens, quand ils disent des textes ou quand ils les incarnent, font la même chose, effectivement. Donc je me rapproche du travail du comédien sans en être un. Mais effectivement, on m'a fait cette remarque-là parce que je travaille beaucoup de faire que les textes soient incarnés. Et parfois, il y a des couacs, mais les couacs font partie de l'improvisation. Et moi, j'adore le jazz, donc je prépare beaucoup ce que je fais. Et quand il y a des couacs, à la limite, j'en suis content parce que ça permet de créer l'inattendu sur scène, en fait.
Et montrer qu'on est vivant.
Et montrer qu'on est vivant parce que le vivant, c'est quelque chose d'imprévu. Et je rebondis sur le terme que vous dites, dans la mesure où moi, j'essaye de faire des livres qui soient à la fois imprévisibles et liés. Liés, c'est-à-dire qu'il y ait une architecture, mais dont le lecteur s'empare en disant mais qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et c'est ce qui m'excite, moi, quand j'écris, je commence une phrase, je sais jamais comment elle va se terminer, en fait. Elle est vivante, précisément.
Je suis allé en Inde où j'ai lu les versets sataniques. Je suis allé en Égypte où vous parlez de la place Tahrir. Je trouve que il y a quelque chose où vous êtes très doué, changer de métier, prévoyant, ou alors c'est tout simplement le hasard qui fait bien les choses.
Alors là, vous parlez de Salman Rushdie, je suis très touché parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Salman Rushdie est quelqu'un qui est capable de parler de l'histoire, mais de délirer l'histoire. Et c'est vrai que moi j'ai toute une, je dirais presque une politique des noms propres. Il se trouve que dans le texte, dans la trilogie Bientôt Roi, apparaît une figure qui s'appelle Grand-Papa au képi. Et j'ai pris soin de dire Grand-Papa au képi pour ne pas dire le général de Gaulle. Si je dis le général de Gaulle, ça ferme tout de suite l'imaginaire. Si je dis grand-papa au képi, notre imaginaire politique, on va se dire, il s'agit du général de Gaulle, mais aussi de toute figure verticale masculine à laquelle on doit se confronter pour se construire. Donc faire qu'on dise plutôt grand-papa au képi plutôt que général de Gaulle, ça permet au lecteur de délirer l'histoire et de se raconter une histoire à propos de l'histoire. Et c'est en cela que je rebondis sur le mot que vous disiez, faire que les livres soient des vivants. C'est-à-dire que c'est parce que les lecteurs sont capables de faire des variations, presque des variations musicales autour de ce que j'écris, qui le rendent vibratoire et vivant, ce livre. Donc effectivement, Rushdie est l'un des auteurs qui m'intéresse beaucoup et qui, même dans un texte comme Joseph Anton, où il raconte pendant 10 ans la traque dont il a été l'objet et qui malheureusement a rebondi il y a un an et demi, eh bien en fait, il raconte ça avec un humour fantastique. Parce que l'humour, c'est ce qui va permettre d'alléger un discours qui pourrait être pathétique et qui l'est, enfin, pour des choses qui sont effectivement pathétiques. Mais Rushdie a toujours la grâce de nous offrir cet humour fantastique. Et moi, dans un autre ordre d'idées, j'essaye toujours de mettre de l'humour et de ce que j'ai appelé le lyrico-déconnant, c'est-à-dire avoir dans ce texte que je lis, là, Les Fuites de Greg Mann, des moments très très émotionnels et puis des moments où ce Greg Mann, il veut devenir roi de lui-même et roi de l'Hexagone. Il a des crises de lévitation aiguë. Donc c'est un mec qui se prend le plafond, il a des bosses incroyables. Et donc, on est toujours pris entre le rire et l'émotion. Et c'est en cela qu'on peut revenir à cette notion de vivant, c'est-à-dire que j'espère créer de l'imprévisibilité dans mes romans, dans mes textes en fait.
On parle d'horreur avec le docteur Jekyll et Mr. Hyde. On parle de Gotham City, mais j'ai l'impression que vous êtes tout ça.
Alors, je ne sais pas ce que je suis. Alors, j'aime bien le maire. Quand vous dites je suis tout ça, j'aime bien je suis en français. Parce que quand on dit je suis qui je suis, c'est le verbe suivre ou bien le verbe être. Donc, on est déjà dans une machine à fiction avec ce verbe-là. Et en fait, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de raconter la vie. J'appellerais ça d'un terme un peu savant, mais je vais expliquer. De rassembler toutes les molécules, les vibrations contradictoires du vivant. De saisir ce que j'appellerais la puissance. jouissance oxymorique du vivant. C'est-à-dire qu'il nous arrive à chacun, à chacune, d'avoir des moments comme ça de grande émotion, de rire. Et même dans les moments les plus tragiques, il est arrivé, je pense à un ami, d'avoir des moments où on perd quelqu'un. Et même dans ces moments-là, on a la ressource de... Voilà. Donc, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, bah, ça peut être tout ce qu'il y a parfois de grimaçant et quand même de ressources de rire que l'on tire par un rectus et en un combat très douteux dans les moments les plus dévastateurs de l'existence. Donc effectivement, on pourrait dire ça, qu'il y a, il y a des contraires, il y a du Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans ce que j'écris, mais en tout cas, il y a, j'espère, de tout cœur, de la musique, de la vibration et une manière de lancer vers le lecteur des choses qui convoquent son imagination poétique, parce que moi, pour moi, la littérature, c'est pas simplement d'écrire les choses de manière socio-référentielle en nommant des noms de personnes qu'on connaît déjà, c'est d'offrir, j'espère, un imaginaire qui, quand le livre est fini, puisse faire que les lecteurs le sonorisent à leur façon. C'est-à-dire se disent, tiens, je vais me le relire à voix haute quand je l'ai entendu l'auteur, en l'occurrence moi, Ludovic Carré, lire le texte, et que ces vibrations leur promettent d'être plus vivants, plus joyeux, d'élargir leur vie finalement, d'être plus combatifs peut-être dans tous les moments qu'ils traversent.
Vous êtes le parrain du Printemps des Poètes avec le thème Frontières. Qu'est-ce que ça vous dit ?
Alors, Jean-Pierre Puyal, donc, qui m'a invité pour cette manifestation Printemps des Poètes 2023, m'a demandé moi-même d'écrire un texte, donc que je lirai demain lors de la balade poétique à Valence là, à partir de 11h. Le thème de frontières, il a bien sûr une acception géopolitique. Et là, nous, en Europe, on voit bien que ces frontières sont malmenées avec ce qui se passe en Ukraine. Mais moi, j'ai pensé à essayer de faire dans le texte que l'on parle de la frontière entre soi et l'autre, entre le vivant et le non-vivant. Quand on écoute par exemple un biologiste comme Jean-Claude Amezen, il nous dit qu'il y a de la mort dans la vie. La mort cellulaire permet de faire qu'il y ait de la vie. Hein, c'est-à-dire que nos mains, elles sont créées par la mort des cellules interstitielles. Avant, il y avait des cellules interstitielles et c'est cette mort qui crée les doigts. Voilà. Bah, donc, voilà une frontière entre la mort et la vie. Donc ça m'évoque ça. Ça m'évoque aussi les limites et les frontières entre l'amour et l'amitié. Parfois, c'est des zones très troubles. Et donc, il y a la dimension géopolitique de la frontière, la dimension biologique de la frontière. Toutes ces dimensions-là sont contenues dans ce mot. Et d'ailleurs, ceux qui ont rédigé le thème du Printemps des Poètes ne s'y sont pas trompés. Ils ont écrit au pluriel. C'est tout ça que ça m'évoque et que je vais, dans cette édition du Printemps des Poètes 2023 à Valence-sur-Baïse, découvrir. C'est comment les gens s'y prennent avec ce mot-là. J'ai déjà lu de manière murale quelques poèmes et je suis très gourmand de découvrir tous les autres. Il y a 84 poèmes cette année. Donc, il y a toute l'équipe menée par Jean-Pierre Puyal, par Madame Brocalano, la maire de Valence, a suscité un désir d'écriture chez les Valenciens, chez autres que les Valenciens, chez les Gersois, chez Togolais, chez des Aérois, enfin voilà, la notion de frontière. S'il y avait bien un moment où on pouvait faire appel aux auteurs du monde entier, c'est bien quand on fait appel au thème de la frontière pour précisément les traverser. Mais ce que j'explique dans le texte que moi j'ai fait, c'est peut-être qu'il faut, comme dirait le philosophe Jacques Derrida, de la frontière et un chez-soi pour créer de l'hospitalité. Mais sans se racornir sur une version qui serait le chez-soi nationaliste. Au contraire, un chez-soi ouvert. Mais il faut qu'il y ait peut-être la frontière du chez-soi pour qu'on puisse offrir le cadeau de dire à l'autre « Viens, je t'ouvre ma porte ».
On ne peut pas être heureux si on ne connaît pas le malheur.
Exactement, tout à fait. J'avais été frappé il y a quelques années, il y a peut-être 20 ans, par une interview de l'actrice Marion Cotillard qui disait avant, j'avais, pour rebondir sur la distinction que vous faites entre le bonheur et le malheur, en tout cas leur interconnexion, qui disait Marion Cotillard disait au fond avant j'avais peur d'être heureuse et je préfère être malheureuse parce que au moins j'avais pas peur de perdre le malheur. Bon, c'est la chanson de Gainsbourg, fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Et c'est vrai que effectivement, je pense que, et là je parle de manière un peu autobiographique, sans tartiner de ma biographie sur la table, j'ai connu moi des moments très difficiles et où la littérature a été une ressource, mais pas que. C'est-à-dire que je goûte maintenant avec beaucoup plus d'intensité les moments présents parce que j'ai traversé des moments très difficiles il y a 20 ans pile, donc ça m'émeut assez d'être là à cette édition 2023 du Printemps des Poètes, c'était en 2003, et l'une des solutions de souffle pneumatique et rythmique qui m'a été offerte, ça a été de partir en vélo sur les routes tout seul, voilà, et de me dire finalement si je suis capable de me peupler moi-même d'émotions, de rencontres en partant en vélo sur les routes tout seul, alors je vais créer des moyens d'être heureux, des moyens nomades d'être heureux, et alors je pourrai de nouveau aller vers les autres parce que j'aurai conquis ou reconquis en moi la manière d'être au mieux avec moi-même, avec des oscillations d'humeur, mais en tout cas avec du travail de la joie. Il faut se rappeler peut-être que le peintre Henri Matisse, qui à la fin de sa vie a terminé de manière très empêchée dans son corps, disait « Même quand j'avais envie de me foutre en l'air, il y avait toujours l'assaise de la joie ». Et ça, c'est une phrase que je retiens avec une grande, grande émotion. Et c'est un grand catalyseur d'énergie pour être le plus heureux possible.
Merci beaucoup, monsieur le parrain de la 3e édition, ici à Valence-sur-Baïse, du Printemps des Poètes.
Merci à vous de m'avoir interviewé, d'avoir pris sur votre temps pour venir écouter ce que j'ai proposé. Comme je vous le disais, je trouve toujours que c'est miraculeux que les gens, dans le temps très peuplé qui est le leur, destinent une petite partie de temps à venir écouter les poètes, les écrivains, les romanciers et quiconque a à proposer quelque chose. Merci à vous, merci beaucoup.
Le rendez-vous de l'info sur DFM 930.